Radio Campus est partenaire du festival Latitude Contemporaine du 5 au 24 juin. Retrouvez les informations et les sons du festival sur 106.6 FM chaque mercredi à 16h30 avec des membres et des invités de l'équipe des Latitudes et des interviews et reportages réalisés par notre journaliste Sandra Mosilovic. Tout le programme du festival est sur le site latitudecontemporaine.com. Voilà, deuxième édition donc consacrée à Latitude Contemporaine dans le magazine Quoi de Neuf, chaque mercredi à partir de 16h30 sur Radio Campus. Aujourd'hui, d'autres invités vont nous parler de ce festival et de leur vision aussi des spectacles, etc. Donc on va retrouver plusieurs personnes autour de la table, autour aussi de notre journaliste Sandra Mosilovic. Bonjour Sandra. Alors, donc, on a vu depuis la semaine dernière un certain nombre de propositions du Festival Latitude Contemporaine. Tu auras l'occasion de nous faire écouter des sons que tu as enregistrés là-bas. On va aussi discuter de certains spectacles avec d'autres personnes dans ce studio, notamment Sophie Ponce, qui est rédactrice en chef du journal Les Démêlés. Bonjour Sophie.
Marie, pardon.
Bonjour Marie, excuse-moi. Donc Marie, vient de sortir, il n'y a pas longtemps, hein, la première édition d'un journal consacré à la réflexion autour des arts vivants, de la scène, c'est ça,
hein? De la critique. De danse, performance, forme chorégraphique.
Voilà, donc on a vu hier soir un spectacle ensemble, ce sera l'occasion de le décrypter peut-être pour nos auditeurs. Malheureusement, il n'a été visible qu'une fois dans ce festival.
Mais on s'en souviendra longtemps,
c'est clair. Alors autour de cette table également, alors c'est pas Sophie, hein, c'est Alice. Alice Gentil, bonjour.
Bonjour.
Donc toi, tu peux peut-être te présenter d'ailleurs.
Oui, alors moi je suis en charge de l'action culturelle pour Latitude Contemporaine. Donc c'est tout le volet de médiation, de sensibilisation des publics sur le festival et pas que aussi, puisqu'on a des projets à l'année. Et donc c'est faire le lien entre des propositions artistiques et des personnes.
Voilà, tu n'es pas venue seule.
Voilà, je suis accompagnée de Morgane.
Bonjour, moi c'est Morgane Normand, donc j'ai rejoint Latitude Contemporaine cette année en service civique pour justement assister Alice sur toutes ses missions d'action culturelle et de médiation. Et on n'est pas trop de deux parce que justement il y a beaucoup à faire pendant le festival mais aussi après et avant le festival.
Voilà, donc la semaine dernière on a évoqué largement la programmation, hein, avec Maria Carmela Mini, que l'on retrouvera la semaine prochaine pour faire, on va dire, presque le bilan déjà de ce festival, sachant qu'il dure encore quelques jours après le 20, notamment en Belgique, hein, on pourra le préciser tout à l'heure. On va tout de suite vous écouter d'ailleurs par rapport à cette action culturelle menée par le festival, par Latitude Contemporaine, l'association, sachant que le festival est porté par cette association-là et que cette association-là, elle travaille toute l'année.
Oui.
C'est ça qu'il faut comprendre. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est à la fois une asso qui travaille toute l'année, qui a un bureau de production, voilà. On ne l'a pas encore trop dit, et puis qui a un festival, on va dire, qui donne un temps fort dans l'année, une visibilité aussi à l'association, voire même à des artistes du bureau prod, et aussi, bien sûr, à des artistes contemporains qui viennent de partout dans le monde entier, du monde entier.
Oui, c'est vrai qu'on a à la fois ce volet festival, mais on a aussi, avec le bureau de production, la chance d'accompagner des artistes dans leur création et de pouvoir développer et profiter de la présence de ces artistes et de cet accompagnement pour proposer des workshops, des ateliers, à la fois auprès des lycéens, donc auprès de l'éducation nationale, ou alors auprès aussi du secteur social, avec différents partenaires comme la LEFPA, qu'on retrouve et qui nous accompagne aussi dans un volet d'insertion sociale et professionnelle de jeunes depuis 2009, ou encore auprès des écoles, donc différents volets, et aussi un volet à Arras depuis 2016, à l'automne, où on programme et on propose des rencontres, des ateliers et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville d'Arras.
Alors c'est vrai, quand on voit, quand on étudie la programmation du festival, on se rend bien compte que ce n'est pas un festival anodin, qu'il y a de l'engagement. On retrouve ça depuis des années dans ce festival. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le suit, nous, en tant que partenaire, depuis le début, parce que c'est à chaque fois un événement et un ressourcement. Et là, on retrouve aussi, au travers de vos actions, une sensibilité particulière, une préoccupation pour les problèmes de société.
Effectivement, la question de l'engagement, elle est centrale dans le festival et toute l'année, c'est vraiment Maria, je pense aussi, insiste toujours là-dessus parce que on veut aussi montrer et défendre que c'est un festival ouvert à tous et que nos propositions, elles sont accessibles à tous. Et on a un gros travail de sensibilisation donc on mène avec Morgane pour intervenir, pour montrer aussi que chacun peut avoir sa part dans ce festival et pouvoir s'engager. Voilà. Donc ça, c'est...
Alors, c'est curieux, Sandra, parce que ce matin, nous sommes allés ensemble dans une journée qui était consacrée à comment peut-on évaluer des gens en difficulté, notamment des jeunes, et comment on en identifie les compétences. Et là, j'ai retrouvé, par exemple, au cours du spectacle de l'inauguration de mercredi dernier, effectivement un projet dans lequel des jeunes se sont investis, accompagnés par un professionnel artiste, et qui donc ont produit, on va dire, un objet chorégraphique auxquels se sont agglomérés, je ne sais pas comment on peut dire, même une partie du public. Donc voilà, on sent bien au travers de ce projet que l'idée est de faire vivre à ces jeunes un moment important de solidarité où ils font partie d'une équipe et où ils ressentent aussi le public de façon très présente, très forte.
Tout à fait, c'est vrai que le volet et le partenariat qu'on a avec la LFPA qui inaugure le festival, c'est important pour eux aussi de pouvoir se sentir valorisés, d'avoir un espace d'expression. Et on leur offre la possibilité de s'exprimer, de pouvoir aussi faire des choix. C'est important pour eux de pouvoir faire des choix, pouvoir... réagir, pouvoir aussi... développer le sens critique et puis aussi d'être confronté à un public et en tout cas aussi d'être partie prenante, de pouvoir discuter, d'avoir des espaces d'expression. C'est vraiment très important pour eux et c'est toujours très très émouvant de les voir sur scène parce qu'on a 40 heures d'atelier avec eux en amont du festival. Donc ça, c'est la partie de l'iceberg, on va dire, la moins visible. Mais c'est vraiment beaucoup de travail qu'on mène avec un artiste. Donc là, cette année, c'était avec François Le Willy. C'est aussi un enjeu avec les éducateurs. On travaille beaucoup sur tout ce volet-là de compétences, de savoir-faire, de savoir-être qui est vraiment développé au fur et à mesure des ateliers. On les voit se révéler. Parfois, ils arrivent avec leur timidité, avec aussi parfois un peu de manque de confiance en eux. Et puis, petit à petit, vraiment, on les voit s'affirmer.
Alors, je ne sais pas si Marie a un point de vue critique sur ce qui a été vu lors de cette présentation. Est-ce qu'on peut analyser un spectacle comme ça ou on peut se dire que c'est un projet en lui-même et que ce que voit le public, c'est une toute petite partie d'un travail considérable qui a été fait en amont avec des jeunes qui se sont structurés, intégrés à un projet qui a des facettes multiples en termes d'observation. Enfin, si on prend les choses d'un point de vue journalistique, c'est différent de la critique du spectacle tel qu'on l'a vu.
Disons que ce que vient de dire Alice par rapport à la partie cachée de l'iceberg, c'est un peu toujours ça, il me semble, quand on voit un spectacle, il y a eu une somme de travail en amont souvent considérable et nous, on arrive au moment du spectacle sans savoir forcément ce qu'il y a eu avant. Donc, dans ce sens-là, oui, la proposition qui a ouvert le festival avec les jeunes de la LFPA, c'était tout à fait une vraie proposition de performance, notamment parce qu'on sentait à la voir qu'effectivement ils ont rempli cet espace-là. La performance s'appelait Habiter et c'était vraiment, on avait le sentiment qu'ils se sont appropriés la proposition de départ que nous, en tant que spectateurs, on ne connaît pas. On ne sait pas exactement comment François Lewilly a travaillé avec eux, mais on sentait que c'était leur espace à eux dans lequel ils nous ont invités, parce que la proposition finissait comme une sorte de grande fête d'ouverture, finalement, où le public était invité à venir danser sous les lumières d'une boule à facettes et à partager le dance floor avec eux. Et ce qui était assez beau, et ce qui était aussi le cas dans la proposition suivante, La gâchette du bonheur, c'était vraiment de voir ces participants et ces amateurs de danse et de plateau, au sens aussi où ils aiment ça, de s'approprier un dispositif qui est proposé par des chorégraphes, effectivement, qui est un dispositif très clair et qui marche très bien visuellement, mais de voir qu'eux investissent vraiment cette proposition avec ceux qui sont profondément, avec leurs souvenirs, avec leurs histoires, qui viennent avec une sincérité assez bouleversante, partager avec nous.
Alors c'est vrai, soirée donc cohérente hein, dans sa forme, puisque ce deuxième spectacle a amené beaucoup de jeunes aussi à s'exprimer là, oralement, on va dire, hein, puisque par le corps, quoique aussi par le corps, et notamment à nous envoyer des idées, des réflexions assez chocs. On va laisser Sandra, qui a vu ce spectacle aussi et qui va nous décrire un petit peu le cadre de l'interview qu'elle vient de réaliser.
Donc, du coup, moi, je vais parler de La gâchette du bonheur, qui est un spectacle qui a été réalisé par Anna Borraio et Joao Galante. Et donc, c'est une pièce de théâtre et d'improvisation qui met en scène, comme vous l'avez dit, des jeunes adultes de la métropole lilloise qui viennent donc de milieux différents, qui ont été tous présélectionnés auparavant. Et en fait, c'est une pièce qui est, donc comme c'est de l'improvisation, ils ont simplement une série de gâchettes, donc des pistolets, et ça va vraiment au hasard. Donc dans chaque gâchette, il y a un petit bout de papier où il y aura une question. Donc nous, en tant que spectateurs, on n'a aucune idée de quelle est cette question. Et eux, en tant que performeurs, ils n'ont aucune idée de quand est-ce que la gâchette va exploser. Donc si cela passe entre eux, à un moment, elle explose. Et là, ils doivent lire, enfin, eux-mêmes, le bout de papier avec la question. Et ensuite, nous révéler un récit de leur vie personnelle, une expérience concernant cette question. Et donc du coup, en fait, c'est un sorte de voyeurisme qui est assez prenant. Donc on vient là et on écoute des histoires. Et donc j'ai rencontré les artistes en question qui m'ont ensuite parlé de leur expérience. Et donc on va écouter tout de suite.
Je m'appelle Laetitia et j'ai 20 ans et j'étais en licence d'art de la scène à Lille 3 et je vais la reprendre là en septembre.
Comment est-ce que vous avez travaillé du coup pour réaliser ça?
En fait, on a eu énormément de temps d'échauffement et de préparation physique avec donc Catalina, la chorégraphe. Et ouais, c'était découverte de son corps, du corps de l'autre. On passait énormément dessus pour forcément rapprocher le groupe, comme on ne se connaissait pas tous. Et après, comme toutes les phrases viennent déjà de nous, comme c'est de l'impro et c'est nos histoires, on a eu aussi des petites pistes sur comment créer un récit par rapport à notre idée à l'origine d'histoire ou voilà, de l'impro. Quoi.
Du coup, ça, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience?
Bah justement, c'est marrant parce que hier, pour donner un exemple, tu vois, j'ai eu une question qui était quel était le moment le plus heureux de ta vie? Et donc j'ai fait tout un long speech, machin. Et à la fin, je disais que pour moi, j'avais 20 ans et le moment le plus heureux de ma vie, je ne l'avais pas encore vécu. Et en fait, hier soir, en rentrant de la représentation, je me suis dit, mais en fait, je crois qu'en fait, c'est ça le moment le plus heureux. Parce que je passe par tellement d'émotions et j'ai découvert tellement de choses. L'équipe avec Catalina, Joao et Antonia, c'est incroyable, c'est des professionnels avec nous. Et j'ai appris tellement de choses parce que je fais du théâtre avant, mais c'était tellement des manières de travailler incroyables que si je devais revenir vraiment une chose, franchement, je ne saurais même pas quoi dire. Je rêverais de parler toutes les langues du monde et de les suivre partout pour faire la gâchette du bonheur encore et tout le temps. Mais
Alors bonjour, je m'appelle Toinon. Je participe à la gâchette du bonheur qui fait partie du festival Latitude Contemporaine.
Est-ce que tu penses que la représentation que vous avez fait, ça rapporte quelque chose au public, ça leur enseigne quelque chose?
Alors je sais pas, parce que c'est vrai que cette sorte de théâtre là, il est particulier vu que c'est vraiment nous-mêmes qui sommes sur scène et pas des comédiens. Donc peut-être que ça a une un impact différent sur le public, je pense, parce qu'ils sentent que ce qu'on raconte, c'est du vécu. Après, peut-être que du coup, ils peuvent se dire que c'est pas forcément du théâtre, du moins c'est du théâtre documentaire, ou que... Enfin, c'est vraiment un concept particulier. Et j'avoue que j'ai pas trop de retours sur le public, donc je sais pas. Mais nous, du côté des acteurs, c'est super à faire. Et de l'autre côté, c'est peut-être intéressant d'attendre justement de voir la pluralité des personnes et de tout ce qu'on peut apporter en fait. Et que des fois, on n'a pas besoin de faire semblant et que déjà rien qu'être nous-mêmes, c'est super.
Bah, je m'appelle Antoine. Je suis étudiant, enfin là, j'ai fini mes études d'art de la scène à la fac de Lille 3. Donc je viens d'avoir ma licence. Et sinon, je suis étudiant au conservatoire de Tourcoing.
Et est-ce que tu penses que votre spectacle il apporte quelque chose au public, toi personnellement ?
Je sais pas. En fait, enfin, je pense que, en tout cas, il apporte pas des réponses. Mais je pense qu'il permet au public, en même temps, de, je sais pas, d'entendre parler de choses des fois sans tabou, que dont ils auraient pas parlé, ou et peut-être au public de se poser les propres questions, même de se dire ah, enfin, de repenser à leurs expériences aussi de quand ils avaient 20 ans, de quand ils avaient 12 ans, de des choses comme ça. Et donc, je pense pas que ça. Il y a des gens, ça touche vraiment. Je sais qu'hier, il y avait des gens qui avaient pleuré et tout, et qui avaient passé un super bon moment. Mais je sais pas dire si ça fait évoluer les gens. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a toujours un truc intéressant. Enfin, de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des histoires qui vont être racontées. Et après, moi, je sais que j'aime bien écouter des histoires et des anecdotes. Et je pense que l'intérêt, ouais, il est aussi de découvrir un petit bout de jeune, entre guillemets, même si on n'est pas très représentatif de toute la jeunesse de France.
Je m'appelle Benoît. Et je suis étudiant au conservatoire de Tourcoing et à la fac en théâtre. Et ce qui ressort du public après, c'est plus des trucs genre ah bah merci, vous êtes confié. Et en gros, je pense que c'est ce qu'on peut apporter au public, c'est peut-être se dire bah ok, bah de toute façon, c'est que des histoires, je peux les raconter. Enfin, je sais pas, si moi je venais en tant que public, je me dirais en fait, genre ce qu'ils racontent eux, ça aurait pu très bien m'arriver. Et alors là, ils disent à tout le monde, et alors que. Enfin, moi, je peux très bien aussi dire à mes potes tout ce qui se passe. Je peux dire que j'ai fait de l'hôpital psychiatrique, je peux dire que je me suis déjà suicidé, que j'ai passé des moments heureux à l'étranger, que tu vois, genre, ma famille elle compte plus que tout ou n'importe quoi. Toi. Du coup, enfin, tu vois, genre, peut-être que ça peut libérer un peu la parole aux gens et leur dire bah voilà, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, là, ici, on a une gâchette.
Voilà, merci Sandra. Une petite réaction personnelle par rapport à ce spectacle hein.
Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce spectacle. En fait, en y allant, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mmh. Et puis, ça a débuté, donc on rentrait dans la pièce et c'était tout noir. Et juste, il y avait un endroit où il y avait de la musique. Et donc, c'est la musique qu'on entend au début et à la fin du reportage. Et de la lumière. Et ils étaient en train de danser. Et comme si on n'était pas là, ils étaient en train de danser dans leur coin. Donc, nous, on s'asseyait et tout. Ils continuaient de danser. Et d'un coup, la musique, elle s'arrête. Et puis là, ils s'assoient tous devant nous. Et ils sont silencieux pendant de longues minutes, et ils nous regardent. Et en fait, donc, au début, il y a vraiment cette atmosphère froide, puis tout d'un coup, ils se confient à nous, et de fil en aiguille, l'atmosphère, elle se détend, et au final, ils sont en train de danser sur les tables, et de nous raconter des histoires. Et les histoires, elles peuvent être à la fois touchantes, tristes, drôles, on a vraiment beaucoup ri cette soirée-là. Et donc, c'était vraiment, vraiment impressionnant.
Voilà, donc un spectacle que j'ai pu voir le soir de l'ouverture. Hein. On peut dire effectivement qu'il y a une cohérence avec le sujet précédent. Peut-être que Morgane pourrait aussi nous décrypter sa vision des choses.
Je voulais juste ajouter qu'on disait que l'attitude contemporaine, c'était des spectacles participatifs, mais aussi des actions qui sont peut-être un peu moins visibles, comme l'exposition qu'on a montée avec la clinique Lautréamont et l'artiste sérigraphe Paul Parent, qui partait de ce spectacle Gâchette du bonheur, qu'on a proposé à des jeunes qui fréquentent l'hôpital de jour de la clinique Lautréamont, qui est encore visible jusqu'à ce soir à l'auberge de la Maison Folie. Et deux des participants en fait, de ces ateliers ont découvert le spectacle Gâchette du bonheur. Laetitia, qu'on a entendu en début d'intervention, a participé à ces ateliers et a découvert en fait, tout ce qui se passait pendant ce festival. Et s'est vraiment intéressé aux ateliers et entré dedans vraiment avec une grande participation. Et moi, c'est ça aussi que j'ai trouvé beau en fait, dans la Gâchette du bonheur. C'est un peu ces rencontres entre plein de jeunes différents et toutes ces problématiques. Et je pense que ce thème de la jeunesse, c'est aussi un thème fédérateur parce que c'est des jeunes qui se rencontrent, que ce soit les jeunes de l'ELEFPA ou les jeunes de la clinique, les jeunes de la Gâchette du bonheur. Et en même temps, ça fait écho aussi à nous, adultes, qu'est-ce qu'on a eu comme problème quand on était jeunes et comment est-ce qu'on peut aussi accompagner ces jeunes, la jeunesse, etc.
Alors, je pense aussi pour le public, plus il vieillit d'ailleurs et plus il devrait être concerné, se sentir concerné par qu'est-ce qu'être jeune actuellement, quelles sont les problématiques des jeunes. Et là, on a quand même une sacrée palette de personnalités, de jeunes très différentes, avec des problématiques qu'ils nous évoquent de façon très claire et précise.
Oui, tout à fait. C'est vraiment des jeunes qui ont des profils très différents, mais qui, au final, sont traversés par les mêmes émotions. Et j'ai envie de dire, même si on est plus jeune, mais en grandissant, c'est des problèmes en fait, qu'on peut tous rencontrer dans nos vies, en fait, même en étant adultes. Et comme le disait très clairement Benoît, quand on les entend raconter leurs histoires, on se dit... Et moi, qu'est-ce que j'aurais eu à raconter, en fait, si j'étais posé sur cette question ?
Alors, c'est vrai que la technique de la gâchette, qui donc plus ou moins explose ou non, selon le cas, ça, le coup part, mais n'explose pas forcément. Il y a une part d'aléatoire, de roulette russe, on va dire, d'une certaine manière, et permet à chaque personne qui est concernée par la balle en question, qui part en fumée, de couleur, de s'exprimer. C'est peut-être aussi une façon de favoriser la prise de parole.
Je pense effectivement que c'est une façon de favoriser cette prise de parole. Et le fait que ce soit aléatoire, ça va vraiment changer aussi l'atmosphère. Puisque c'est vrai qu'on l'a joué deux soirs. Et le mercredi n'était pas du tout le même. Enfin, le lendemain, c'était pas du tout la même ambiance, les mêmes histoires. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant parce que, en fonction de la question, du jeune qui a la question, de l'ambiance de la salle, de l'écoute, enfin, il y a vraiment des choses qui se jouent au moment T, quoi, de la représentation.
Marie, un regard critique sur ce spectacle ?
Ce qui était. C'est vrai que ce qui était très très beau, c'est dans le reportage qu'on vient d'entendre, on entend des gens qui s'expriment très bien et sur scène aussi, ils avaient cette facilité à prendre la parole et à raconter leurs souvenirs. Mais dans la pièce, il y avait aussi des prises de parole qui étaient plus difficiles et des gens pour qui on sentait que c'était vraiment quelque chose d'important d'être là et que ce moment qui visuellement est très très beau où effectivement la gâchette... explose et il y a une poudre fluo colorée qui se répand dans l'air, ça fait un moment de suspension et là il y a une ou deux secondes de flottement avant que la personne se mette à parler et c'était à chaque fois des moments vraiment très beaux parce qu'on sentait l'individu voilà, qui tout d'un coup est exposé par le dispositif et qui s'apprête à vraiment nous partager quelque chose de sa vie et c'était... Ce qui était beau, c'était cette force du groupe, effectivement, qu'on sentait très protectrice aussi de toutes ces prises de parole qui pouvaient être un peu plus fragiles. Ça, c'était quelque chose qui était très perceptible aussi et qui était du coup, je pense aussi pour eux, par rapport au dispositif, un moyen aussi de quelque part de sentir protégé, quelle que soit la chose qu'ils avaient à nous dire, d'être entre eux dans un groupe fort et soudé. Qui donne aussi la force de partager le souvenir en question.
Sandra ?
Je sais aussi que quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touchée pendant la performance, et en fait c'est même après, c'est que le spectacle est magnifique. Et à la fin, quand ils venaient saluer le public, on a vu toute l'émotion qu'eux avaient. Enfin, on voyait à quel point ils avaient une gratitude immense par rapport à toutes les personnes qui ont organisé ce spectacle et par rapport au public. Et je sais que moi, à la fin, c'est ça qui m'avait encore plus touchée, quoi. On voyait à quel point c'était important pour eux.
Ouais. Joao, il parlait même dans les répétitions, parce qu'on les a suivis pendant une semaine, et il parlait vraiment de quand vous avez la gâchette, imaginez une bulle. Vous êtes dans votre bulle. Et c'est vraiment un moment pour vous. Et il y a eu effectivement, par exemple, un participant, Andréi, qui avait beaucoup plus de mal avec les prises de parole et qui a vraiment réussi aussi à s'affirmer le deuxième soir, à pouvoir aussi rebondir, parce qu'ils avaient aussi la liberté de pouvoir rebondir et d'aider ou de poser des questions en dehors de la gâchette. Donc c'était aussi intéressant.
Voilà, donc un beau démarrage de ce mercredi dernier. Hein. Là, depuis, il y a eu beaucoup de choses. Peut-être tu peux évoquer, Alice, que certains ont raté. Non, on va recoller sur le spectacle d'hier soir qu'on a vu à Douai.
Oui, alors après, par exemple, la semaine dernière, on a eu, quand on parlait du bureau de production, on a eu Yuval Rosman qui a présenté TBM à l'Idéal de Tourcoing. Et c'était également une proposition engagée hein, avec cet artiste. Enfin, je pense que Maria, peut-être, on avait touché un mot, mais un artiste israélien qui se met dans la peau d'un Palestinien et qui construit, qui a écrit, qui est auteur de ce spectacle. Et qui a écrit une histoire d'amour entre un Israélien et un Palestinien dans un contexte géopolitique très tendu et très compliqué. Et donc, il y a eu aussi cette proposition. Des jeunes de la LEFPA l'ont vu d'ailleurs. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir ces spectacles-là. Il y a eu aussi le week-end à la condition publique, hein, ce week-end, avec pas mal de propositions d'installations sur le toit de la CP, en écho aussi à l'exposition Habitarium présentée en ce moment à la condition publique. On a eu aussi un dispositif qui s'appelle La Maison, dans lequel les spectateurs peuvent, munis d'un casque, déambuler et découvrir aussi les histoires d'intimité dans les différentes pièces de la maison. Et de pouvoir aussi écouter soit le récit de l'enfant ou de la mère en fonction de ce qu'on a envie d'écouter. Et puis aussi, on a eu Europa qui est venu. Donc c'est un collectif d'anglais qui fait un tour d'Europe en camping-car pendant 6 mois. Et donc dimanche dernier, ils étaient à la condition publique. On les retrouve ce soir aussi à la Maison Folie Oisem. Et leur projet, c'est donc d'inviter les publics à venir chanter des histoires d'amour, des chansons d'amour, pardon, des chansons d'espoir. Et donc, on peut être à plusieurs, on peut être tout seul pour chanter cette chanson. Et ensuite, le projet, c'est aussi une application et donc de pouvoir après écouter toutes ces chansons sous forme de web radio aussi et de constituer un atlas des chansons d'amour à travers l'Europe. Donc il y a eu aussi cette proposition-là. Et donc ce soir, on se retrouve à la Maison Folie Oisem avec 3 propositions très engagées. Donc la première, c'est Koku, une sortie de résidence aussi de Kubra Academy hein, qu'on avait écouté la semaine dernière. Et puis on finira avec Sorour d'Arabi, donc une soirée bien, bien riche.
Voilà, alors je propose, la journée s'installe là, on a du temps devant nous aussi pour accueillir Amandine de La Rose des Vents hein, qui nous a rejoint, puisqu'on peut dire qu'elle est aussi concernée par le festival Latitude Contemporaine, vu que La Rose des Vents est un des partenaires. Peut-être tu peux. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Peut-être tu peux nous dire. En ce qui concerne La Rose des Vents, ce que vous avez accueilli et comment a réagi le public peut-être à cette proposition?
Alors cette année, on a accueilli un dispositif un petit peu particulier, c'était la compagnie Berlin, avec un spectacle qui s'appelait Perhaps of the Dragons et qui était en fait une scénographie très particulière pour seulement 30 spectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Mmh. Et chaque spectateur avait l'occasion de voir, et d'entendre l'histoire d'un comédien d'un pays, quel qu'il soit dans le monde. Et les histoires, au bout d'un moment, se recoupaient parce que la compagnie est partie de cette idée qu'il y avait seulement en moyenne 6 intermédiaires entre vous et n'importe qui dans le monde, que ce soit au fin fond du Kenya, au Japon, aux États-Unis, au pôle Nord. Bref, en passant par 6 personnes que vous connaissez, vous pouvez toucher cette personne avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a accueilli cette proposition-là sur plusieurs jours, avec plusieurs représentations par jour. Il y a eu des réactions plutôt amusées ou plutôt concernées, étonnées. On a eu toutes sortes de réactions. On a eu quelques personnes qui n'ont pas trop aimé non plus se retrouver devant un écran, puisque c'est un dispositif essentiellement vidéo. Ça les a déstabilisés de ne pas avoir de comédien de visu vraiment. Mais les connexions et l'étonnement étaient vraiment présents. Donc ça s'est plutôt très bien passé.
Très bien. Alors, on te retrouve tout à l'heure pour présenter la programmation 2018-2019 de La Rose des Vents. Peut-être si on a le temps d'aborder un tout petit peu le Next comme ça, mais on reviendra bien sûr sur ces gros événements à la rentrée de Radio Campus et la rentrée de la saison culturelle. Donc tu restes avec nous, hein, bien sûr, et puis on continue. Donc on a plusieurs projets encore à présenter. Hein. Tout d'abord un reportage en anglais, si vous le voulez bien. Sur, alors Sandra, tu peux peut-être expliquer le contexte.
Donc du coup, justement, comme vous parliez de au repas, donc je suis allée voir hier et j'ai interviewé une des artistes, enfin celle qui est en charge du projet. Bon, elle parle anglais, donc le reportage est en anglais. Je vais essayer de traduire par-dessus si c'est possible.
Bon, on va essayer. Tu peux toujours lancer le son. Après, on va s'organiser.
Là, normalement, c'est lancé. Non, vous n'entendrez rien. Non.
Bon. Bon. Non. Bon, on verra une prochaine fois comment on organise ça. Tu prépares pour la semaine prochaine sur une clé USB et on va s'organiser, ok? Donc, à la semaine prochaine, puisqu'on parlera de ça, tu restes bien sûr avec nous pour parler de la suite de ces événements. Alors, hier soir, nous avons eu l'occasion d'assister à un spectacle assez extraordinaire. Moi, qui m'a bouleversé, enfin qui m'a laissé sur le cul, pour être clair, bien qu'à la fin, on soit tous levés. Hein. Et donc, on était, je ne sais pas si c'est un hasard, Marie, hein, ensemble à ce spectacle.
Oui.
Il n'y a pas de hasard.
Non, je ne crois pas.
En tout cas, on a partagé un moment de bonheur.
Oui, c'était assez extraordinaire, en effet. Donc la pièce était Bacchante de la chorégraphe Marlène Montero Freitas. Et c'est une pièce qui déborde dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, qui déjà par sa durée, c'est une pièce qui dure 2h15, donc ce qui est quand même assez rare sur les plateaux de danse. Et c'est une pièce où les interprètes sont autant dans la salle avec nous que sur scène. On a 5 musiciens trompettistes qui fanfaronnent pendant toute la pièce, des danseurs assez incroyables. Et c'est une sorte, on s'est dit à la sortie, c'est comme une sorte d'opéra chorégraphique, tant le mouvement est travaillé autant que les textures sonores, que la voix. Enfin, c'est une écriture chorégraphique qui est assez dingue, vraiment.
Énorme.
Ouais.
Donc beaucoup d'imagination, beaucoup de choses délirantes. On est dans on peut remonter à l'origine du burlesque d'une certaine manière, avec toute l'époque aussi autour du mouvement dada, toute la période statique qu'on entend aussi en termes de musique, Ravel bien sûr. Enfin, on est à la fois projeté dans cette époque-là en termes d'univers, aussi physique, hein, avec les costumes, les trucs bizarres. On retrouve des choses très très anciennes et en même temps des formes chorégraphiées très contemporaines, et notamment là avec cet artiste qui est si ma mémoire est bonne, elle est d'Amérique du Sud,
elle vient du Cap Vert
en fait. Ça, et donc du Cap Vert elle a cette fougue, on va dire, cette forme explosive de présenter des spectacles. Elle est à l'intérieur du spectacle, elle joue et pas rien, quoi. Elle y va, quoi.
Oui. Bah, elle commence d'ailleurs un peu en meneuse de revue, puisqu'elle est, habillée, elle a une espèce de peignoir satiné flamboyant, et on la découvre dans cette tenue-là. Et c'est vrai qu'elle mène aussi un peu la troupe. Et c'est vrai qu'à chaque fois dans son travail, elle va puiser dans un ensemble de références, effectivement, qui vont chercher du côté de Dada, du surréalisme, mais aussi du carnaval, parce qu'effectivement, elle raconte qu'elle est assez marquée par son enfance au Cap-Vert et que le carnaval, donc avec la musique et la danse, c'est quelque chose dans lequel elle a grandi et qui est vraiment une dimension qu'on retrouve à chaque fois dans les pièces. Et en fait, il y a des images qui sont créées, il y a 1000 images à la minute, parce qu'il y a des choses à voir tout le temps, dans tous les sens. Il faut faire des choix en tant que spectateur, en fait, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en même temps.
Qui se passe à la fois sur scène et dans la salle. Il y a un écho entre les danseurs, voire musiciens, qui interviennent dans le public et ceux qui restent sur scène. Enfin, c'est un truc de fou, quoi.
C'est dingue, c'est vraiment fou.
Et alors, pour le coup, c'est un spectacle dingue proposé donc à l'Hippodrome de Douai, qui est une salle où les gens ont plutôt un comportement très froid pendant le spectacle. Ça fait des années que je connais cette salle. Par rapport à La Rose des Vents, il y a une vraie différence de public. Et où là, on a toujours peur que le spectacle, en fait, n'arrive pas à entrer en osmose avec les spectateurs, notamment du point de vue des comédiens ou des danseurs, quand ils voient les gens qui sont très statiques, presque jusqu'au bout, hein. Ils peuvent se demander est-ce qu'il y a un écho en face, hein. Mais en fait, après, à la fin, c'était quand même l'explosion du public par rapport au spectacle, forcément, ouais. Hein, donc tout le monde se applaudir, etc., beaucoup de boue, un moment enthousiasmant.
Oui.
Voilà, donc un beau spectacle qu'on n'aura vu qu'une fois, malheureusement, mais on a eu la chance, nous, hein, d'y être. Et tant pis pour les autres, après tout, ils n'avaient qu'à y aller, c'était à Douai, c'est pas si loin. Et ça, c'est en France, hein, Douai, il y a moyen d'y aller.
En et voiture, en plus, hein. On met des navettes en place.
Ouais,
hein,
alors en plus, voilà. Donc, ça, on s'est dit en sortant, puisqu'il y avait aussi la présence de la directrice de l'opéra qui était là, je pense, hier soir. Hein. Je pense qu'elle a dû se sentir très concernée par le spectacle, forcément.
Oui, en effet. La forme, ouais.
Hein. C'est un spectacle qui aurait sa place dans un opéra, peut-être en coupant au plafond, hein, parce qu'il faut garder un espace de visibilité et aussi sonore, parce que là, il y avait du détail dans les musiques, dans la façon d'interpréter, qui méritait une certaine proximité que l'opéra ne permet pas jusqu'au bout, peut-être, jusqu'au fond, à voir. À La Rose des Vents, je ne sais pas si ça serait peut-être bien passé, d'ailleurs.
Ouais. Ça serait parfait à La Rose des Vents.
C'est parfait à La Rose des Vents. L'année prochaine, il faut programmer. D'accord ?
On va passer le mot futur directeur.
Proposition. Bah oui. Pas pour l'année prochaine, alors pour l'année d'après, parce que la saison est prête pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est notre proposition, d'accord ? De Radio Campus, Latitude, tout le monde. D'accord ? On est unanime sur ce projet-là. Et oui, et oui. Alors, sinon, on va parler peut-être de ce qui se passe ce soir et les jours à venir, puisque nous, on se retrouve avec Marie-Carmela la semaine prochaine pour faire le bilan. D'ici là, on aura vu quoi ? Donc, demain, je sais que j'irai pour le coup à l'opéra.
À l'opéra, oui, pour Sacha Waltz. Un super spectacle. Et ce qui est intéressant aussi, là, c'est que c'est une pièce qui a été créée en 2000. Et les interprètes sont les mêmes qu'en 2000. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Vraiment un spectacle avec beaucoup de prouesses techniques, avec les corps en mouvement, hein, puisque le spectacle s'appelle Corpeur. Mm-hmm. Donc, c'est complet, hein, ça affiche J'imagine. Complet. C'est, ouais.
En plus, c'est le spectacle qu'on ne peut voir là, pour le coup, qu'à l'opéra. Hein.
Voilà, ouais. Ah ouais, donc super proposition. Et puis ce week-end, en fait, un gros temps d'arrêt à la gare Saint-Sauveur. Enfin, d'arrêt, mais non, en fait, on sera complètement en mouvement parce qu'on va démarrer ce week-end avec Roucascas Club. Donc, une proposition de Nadia Begret, qui est d'ailleurs une artiste de notre bureau de production. Et Nadia, elle a donc invité des danseurs de Côte d'Ivoire et issus du Roucascas. Donc, le Roucascas qui est un peu méconnu, mais qui est une sorte de dérivé du coupé décalé. Et elle invite donc des interprètes issus du roucascas, mais aussi du hip-hop, à chauffer tout un public avec une proposition très très élancée, très participative. Et on met d'ailleurs en place un workshop d'initiation au roucascas de 18h à 20h ce vendredi à Saint-Sauveur. C'est gratuit, en entrée libre. Il faut juste réserver sur notre billetterie. On aura donc après cet échauffement le Roucascas Club et à la fin un set de Wael Alkak qui est musicien syrien qui va donc proposer tout un set musical dansant et qui a d'ailleurs été accueilli à la maison Folie Oisem en résidence au mois d'avril. Le lendemain, on sera toujours à Saint-Sauveur avec Prieur de la Marne et son bal populaire. Donc l'année dernière aussi,
oui,
également.
On l'avait accueilli l'année dernière pour présenter un peu ce qu'il faisait sur scène.
Ouais.
J'avais été le voir le soir ou le lendemain. Ouais, donc c'était à Saint-Sauveur.
À la gare Saint-Sauveur, mmh. Ouais.
Donc ça avait super bien marché, enfin beaucoup beaucoup de monde, et puis à chaque fois il arrive à nous faire danser avec plein de musique qui va du hip-hop aux musiques actuelles, au rock, enfin vraiment c'est super, c'est des super propositions, donc ça fait bouger tout le monde. Et il y aura également Sarah Maison qui l'accompagnera, donc Sarah Maison qui a vraiment aussi une musique arabisante et très très dansante. Et puis dimanche aussi, des propositions dans l'après-midi avec Judith Depaul, qui est directrice des ateliers d'artistes en exil à Paris, qui accueille d'ailleurs Koubra et Wael Alkak, et qui a construit tout un projet avec des étudiants de théâtre et de conservatoire de théâtre, et qui du coup souhaite mettre à l'honneur tous ces artistes exilés, donc qui ont trouvé comme point de chute Paris, et qui aussi s'expriment par différents médiums, hein, que ce soit de la musique, de la performance, des arts plastique, et donc ces étudiants là vont accompagner le public et leur présenter en fait différents parcours. Ce sera à 15h30 et 17h à la gare Saint-Saul, et puis on finira ce gros temps fort à la gare Saint-Saul avec le cinémix de Prieur de la Marne, Tour de Babylone. Et donc ça aussi c'est assez chouette parce que ils revisitent des films du début du XXe siècle, souvent noir et blanc, qui recustomise au goût du jour, enfin qui met au goût du jour avec une bande son, et là aussi avec en guest une voix off assez, enfin je ne peux pas dire qui sera la voix off, mais
alors, donc chouette. Là on est sur quel jour, hein, on
rappelle? Sur le dimanche 17.
Voilà, ensuite on va s'arrêter au mercredi, puisque le mercredi on fait l'émission, donc voilà. Ce qu'il y a avant mercredi,
alors on avait une proposition au Grand Sud mardi prochain, oui. Mais celle-ci a été annulée. Donc c'était Jonathan Capdevielle avec mm-hmm. À nous deux maintenant. Donc malheureusement pour il y a eu un petit couac pour un petit souci de santé d'un des artistes. Mmh. Donc on a dû annuler cette proposition. Voilà. Après. Maria, alors, du coup, fera le
bilan. Bien sûr.
Je rebondis juste sur ce que disait Alice. Si jamais vous n'avez pas votre dose de Prière de la Mare et de Koubra Academy, il faut savoir qu'avec nos amis de la Maison Folie Oisem, l'Amicale de Production, la Générale d'Imaginaire et Samira El Hayashi, Mademoiselle S, depuis le mois d'avril, on s'est lancé un peu le pari de réinventer l'espace d'exposition de la Maison Folie Oisem pour le transformer en lieu pour les habitants, lieu de vie où chacun peut venir se poser, boire un café, mais aussi voir des propositions artistiques qui sont programmées par tous ces protagonistes, dont Latitude. Et demain, donc le jeudi 14, il y aura une diffusion du documentaire Laïcité, donc qui a été produit l'année dernière dans le cadre des débats d'idées de l'attitude contemporaine, qui interroge cette notion de ce que permet la laïcité au travers le portrait de quatre artistes, dont Koubra Academy, qui sera présente pour aussi répondre à vos questions. Donc c'est aussi l'occasion de la rencontrer, de pouvoir échanger avec l'artiste, ainsi qu'avec la réalisatrice Marie-Laure Marquilinet, qui sera présente. Et enfin, on retrouve aussi le 20 juin notre ami Prieur, qui sera également là pour un deuxième cinémix, qui sera sur l'opérateur de Buster Keaton.
D'accord. Voilà. Alors, on peut rappeler que ce soir, Koubra Academy sera à la Maison Folie Oisem.
Oui, c'est une sortie de résidence. Donc, elle était en résidence depuis maintenant une semaine à la Maison Folie Oisem. Et donc, c'est une proposition où elle reperforme des petite forme qu'elle faisait dès 5 ans en fait en Afghanistan. Ouais. Et donc c'est
ce soir forte. Je crois à 21h30. 20h45. Ouais. Sachant que ceux qui n'ont pas écouté Koubra la semaine dernière sur cette émission, non, ils ne seront pas punis, ils pourront écouter l'archive qui est sur le site de Quoi de Neuf. Donc c'est la page vous tapez Onde de Chine, Onde de Chine, voilà, et après Quoi de neuf, et vous tombez sur les programmes et vous allez pouvoir écouter l'interview que nous avons faite ici en direct avec Sandra, donc de Cobra Academy, qui est un moment très très puissant. Donc voilà, merci à cet artiste de venir aussi nous irriguer en idées et en échanges culturels.
Ouais. Du coup, j'ajoute que du coup, en écho à cette projection, Kubra fait partie, enfin, est une des artistes de ce documentaire autour de la laïcité, de la création artistique, et qu'elle sera là demain lors des projections. Donc, c'est aussi un temps où on peut la rencontrer, poser ses questions, débattre avec elle. Donc, ce sera demain à 17h et 19h à la Maison Folie Oisem. Donc, c'est pour ceux qui ont envie de la rencontrer et de lui poser toutes ces questions, c'est possible.
Bien, merci donc Alice, merci Marie, merci Morgane. Amandine reste avec nous, ainsi que Sandra. Et on va repasser ce petit jingle qu'on écoute sur Radio Campus régulièrement dans la journée. Et on passe à la séquence suivante consacrée exclusivement, on va dire, à ce qui se passe chez notre partenaire de La Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq. Merci.